15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h. Pendant une heure, nous répondons à vos interrogations, nous vous chouchoutons. Et pour cela, il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux muscles du stress. Je m'explique, lorsqu'on est tendu, on a tous un peu tendance à serrer nos mâchoires, à contracter nos épaules ou notre nuque. Eh bien, ces habitudes nous causent des douleurs. C'est pour cela que dans notre émission, nous allons vous apprendre des postures, des exercices d'assouplissement et de respiration pour favoriser le lâcher prise physique et mentale. Pour en parler, notre invitée, ce sera Magali Bastos. Elle est kinésithérapeute. Ensuite, dans notre chronique Les maux du quotidien, on va parler de la pré-éclampsie, une maladie grave de la grossesse. Savez-vous de quoi il s'agit précisément quand ce mal survient? Mal qui touche quand même 40 000 femmes enceintes chaque année en France. On fera le point. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de baisse de désir quand certaines femmes avancent en âge. Est-ce d'ailleurs un passage obligé? Elle nous dira.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, nous reprenons nos habitudes avec donc le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première question, c'est celle de Justine.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je vous ai entendu plusieurs fois dire que les bougies parfumées étaient très nocives et dangereuses pour la santé. Qu'en est-il des lampes Berger? La mienne est cassée, il faut que je la remplace. Merci, prenez bien soin de vous. Au revoir.
Alors pour répondre à cette question, nous avons interrogé une allergologue, c'est le docteur Isabelle Bossé à La Rochelle. On écoute sa réponse.
C'est vrai que la lampe Berger, c'est le même principe. À partir du moment où on chauffe un produit parfumé, on libère des composés organiques volatiles. C'est là en fait la combustion de ces produits parfumés en général qui libère ces composés organiques volatiles. Alors dangereux pour la santé, c'est moins dangereux que la fumée de cigarette, hein, on est bien d'accord. Ça pollue un peu l'atmosphère si on les utilise longtemps, fenêtres fermées, dans des endroits pas très volumineux, etc. C'est pas recommandé, pas plus que le reste. Si on est en bonne santé, c'est un peu irritant, hein, au niveau des voies respiratoires, puisque ce sont des polluants, exactement comme les autres polluants qu'on peut respirer dans différentes situations, extérieures, intérieures, des polluants de peinture, de fumée, etc. C'est le même principe, hein, ça irrite les voies respiratoires. Et quand on est asthmatique, évidemment, les muqueuses bronchiques sont déjà inflammées par les allergènes, donc du coup, ça ne fait qu'augmenter l'inflammation et donc du coup, possiblement aggraver les symptômes d'asthme.
C'était donc le docteur Isabelle Bossé qui était au micro de Benjamin Lévesque. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est une question pour vous, Jimmy. C'est celle d'Alexandre. On l'écoute.
Bonjour Mélanie et Jimmy. J'ai vu sur Internet qu'un bébé était né avec deux bouches. Ça semble dingue. Comment ça peut arriver? C'est une malformation fréquente ou pas?
Alors Jimmy, effectivement, Alexandre nous parle là d'un cas clinique qui a été en fait publié dans une revue scientifique il y a quelques semaines. Donc un bébé qui était né avec deux bouches, est-ce que c'était vraiment deux bouches, deux fois les mêmes, je veux dire, ou une mini-bouche? Enfin, expliquez-nous de quoi il s'agit.
Alors c'est une petite fille qui est née aux États-Unis avec vraiment deux bouches et c'est un cas clinique qui a été rapporté dans le BMJ, le British Medical Journal. Alors elle était atteinte de ce qu'on appelle une diprosopie. Derrière ce nom barbare se cache tout simplement une duplication crânio-facial, c'est une maladie congénitale qui est rare, où des parties du visage, voire tout le visage, sont dupliquées. Wow. Elle est née à terme, par voie basse, tout s'est bien passé. Ça reste heureusement quelque chose de vraiment très rare, puisque seulement 35 personnes ont été rapportées dans la littérature souffrant de cette pathologie depuis les années 1900. Oui. Donc heureusement, c'est un épiphénomène.
Extrêmement rare, d'accord. Est-ce que cette malformation, ils l'ont découvert à la naissance chez ce bébé ou c'est pas quelque chose qu'on peut voir avant à l'échographie?
Alors à l'échographie au troisième trimestre, ils ont vu une petite masse du côté droit de la mâchoire et puis ils se sont dit est-ce que ça pouvait pas être un petit kyste congénital, un tératome ou bien une maladie osseuse congénitale. Sauf qu'au final, à la naissance, ils ont constaté que la petite fille avait vraiment une deuxième bouche qui mesurait entre 1 et 2 cm du côté droit du visage, qui avait même une petite cavité buccale avec des petites dents et même une petite langue accessoire. Bref, tout a été vraiment dupliqué et ça reproduisait les mêmes mouvements que ceux du visage.
Alors c'est quand même dingue cette histoire, c'est très rare, on l'a compris, mais est-ce que cette petite fille, elle allait bien malgré tout? Parce que bon, avoir deux bouches, on comprend bien évidemment le préjudice esthétique, mais... physiquement, souvent, c'est, quelqu'un de malade, c'est un enfant malade ou pas?
Absolument pas. On se méfie quand on commence à avoir une malformation, puisque ça peut en cacher d'autres. Heureusement, elle n'avait que celle-ci, mais c'est un bébé qui allait bien, qui prenait du poids, qui grossissait, qui se nourrissait correctement, mais finalement, elle a du coup été opérée.
Et oui, j'allais vous dire, parce que justement, ça, l'histoire se termine bien, on a pu réparer ce préjudice esthétique, on va dire.
Alors, c'est une chirurgie qui se fait sans urgence, même si un préjudice esthétique pour les parents peut avoir un peu d'angoisse. Néanmoins, il faut avoir un certain poids avant d'opérer un enfant et surtout pour l'endormir. Et donc, à 6 mois, elle a été opérée. Elle a eu une excision, on a enlevé la mandibule, les petites dents, en conservant les autres bourgeons dentaires pour qu'elle puisse avoir une dentition normale.
Ouais.
Et le bébé va bien. 6 mois après, elle n'a simplement qu'une petite cicatrice sur le coin de la lèvre. En revanche, lors de l'intervention, il y a le nerf facial qui est proche, qui a été touché. Pour l'instant, la commissure droite de la lèvre ne bouge pas beaucoup. Donc, peut-être qu'elle aura des séquelles, mais elle ne garde que ça. Et puis, elle va bien, elle grossit bien. Donc, une histoire qui se termine
plutôt
bien.
Et si on sait tout ça, c'est parce qu'évidemment, le cas clinique a été publié par les médecins qui ont suivi cette patiente. Merci beaucoup, Jimmy. Si vous aussi, comme Alexandre, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invitée pour le dossier du jour. Ce sera la kinésithérapeute Magali Bastos. Avec elle, nous allons apprendre à détendre nos muscles du stress, ce que nous contractons sous l'effet de la tension et qui nous cause parfois des douleurs. On en parle dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Magali Bastos. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes kinésithérapeute et l'auteur du livre « Détendez les muscles du stress » publié chez Marabout. Avant de nous expliquer votre programme, programme donc en 5 semaines, et des exercices qui vont nous aider à en finir avec certaines douleurs physiques, peut-être un mot quand même sur ces fameux muscles du stress dont vous parlez dans votre livre. Je crois qu'il y en a 5. Est-ce que vous pouvez nous expliquer lesquels ?
En fait, dans ma pratique, j'ai reçu pas mal de patients qui avaient toujours les mêmes muscles en fait en tension. Et donc au fur et à mesure, en parlant avec eux, je me suis rendu compte que c'était effectivement en lien avec ce qu'ils pouvaient vivre et le stress qu'ils pouvaient vivre au quotidien. Et donc les muscles que j'ai identifiés, il y en a 5. Donc effectivement, c'est le diaphragme qui est le muscle respiratoire, les masséters qui sont les muscles des mâchoires, les sous-occipitaux qui sont les muscles au niveau de la base du crâne.
Là, vous n'en avez pas, Jimmy, cherchez pas. C'est des muscles déjà, donc. On y va par
les piriformes, qui sont les muscles au niveau du bassin. Et les trapèzes, qui sont des muscles bien connus au niveau des épaules. Tous ces muscles-là sont des muscles qui réagissent en période de stress.
Donc, ce sont des muscles qui se contractent plus que les... Parce que des muscles, on en a beaucoup d'autres, mais ceux-là particulièrement réagissent à des périodes de tension, de stress bon ou mauvais, d'ailleurs.
Effectivement, ils prennent en fait la tension, que ce soit des stress positifs ou négatifs, ils prennent la tension dans ces moments-là et accumulent les tensions et effectivement peuvent ensuite bloquer un petit peu ces zones-là, et donc il est bon d'aller les détendre régulièrement.
Jimmy.
Et puis il y a aussi le côté de la posture. Parfois on est stressé, on adapte une mauvaise position, on a mal au niveau du cou, mais il ne faut pas forcément se concentrer que sur cette zone-là. C'est pas parce que vous avez mal au cou que vous avez un problème de cou, le problème est peut-être ailleurs.
C'est ça. En fait, moi, de par ma formation, j'ai une formation à la méthode Mézière, qui est une méthode sur laquelle on travaille avec les chaînes musculaires, donc de manière assez globale. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des tensions au niveau des cervicales, par exemple un torticolis, mais que ça vient de la posture, que ça vient plus bas au niveau du dos. Donc, il faut aller essayer de chercher un petit peu et détendre de manière assez globale l'ensemble du corps pour avoir quelque chose d'adapter et de pertinent pour que la personne ensuite puisse se sentir mieux et avoir moins de tension au quotidien.
Dans votre livre, vous proposez dès le départ de faire un petit test pour évaluer le phénomène de compensation de chacun. Ça veut dire quoi ? Comment on fait ce test ? Je crois qu'il faut s'allonger, puis c'est quoi le principe en fait après ?
C'est ça. En fait, ça c'est le test que Françoise Mézière donc a mis en place et qui explique le phénomène de compensation. Donc la personne est allongée sur le sol et finalement on essaye de voir où se déplace la lordose. La lordose, c'est le creux qu'on a en bas du dos. Et finalement, quand on plie les genoux, on peut voir que la lordose se déplace ailleurs dans le dos. Quand on essaye d'appliquer la tête et d'étirer la tête, la lordose se déplace ailleurs. Donc finalement, cette tension peut se déplacer sur toute la chaîne musculaire postérieure au niveau du dos.
Jimmy ?
Avant de passer aux exercices, vous dites qu'il faut libérer sa respiration. Et donc la respiration semble être au centre du programme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
En fait, la respiration, c'est ce qui permet finalement l'alternance avec l'inspiration et l'expiration. C'est ce qui permet l'alternance entre la tension et le relâchement. Et quand on est stressé, généralement, la première chose que font les gens, de façon automatique, sans s'en rendre compte, c'est qu'ils se mettent en apnée.
Oui.
Et retrouver une respiration ample, libérée, permet justement de retrouver cette alternance au niveau respiratoire, mais aussi dans le corps, pour soulager les tensions.
Et déjà, donc, savoir respirer, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Dans le livre, il y a pas mal d'exercices de respiration. Quand on respire déjà, c'est une manière déjà de détendre ses muscles du stress en respirant bien.
C'est ça. Initialement, on sait tous respirer.
Heureusement.
Par contre, effectivement, on peut avoir tendance à se mettre en fermeture thoracique, en respiration courte et finalement fermer un petit peu tous les volumes. Et donc, retrouver une respiration ample permet justement de libérer déjà et de faire redescendre un petit peu le niveau de stress.
Alors, il y a plusieurs exercices de respiration, je vous invite à les regarder dans le livre. Hein, mais dans le livre, vous apprenez notamment à respirer dans le dos. C'est vrai que pour moi, la respiration, c'est plus quelque chose qui est devant, qui est au niveau de la cage thoracique. Ça veut dire quoi, respirer par le dos?
En fait, on a effectivement souvent l'image des poumons qui sont situés devant. Mais finalement, ils sont aussi à l'arrière au niveau du dos. Et on oublie souvent de faire respirer cette zone-là. Donc libérer dans le dos, ça permet de faire descendre et d'ouvrir tous les volumes thoraciques pour soulager les contraintes qu'il peut y avoir et notamment ensuite qui se propagent par exemple au trapèze et qui peuvent bloquer le cou, qui peuvent bloquer aussi le bas du dos. Donc voilà.
Pour respirer par le dos, là, Jimmy, c'est bon?
Non, mais c'est très pertinent parce que lorsque le médecin vous examine, lorsqu'il ausculte les poumons, il les ausculte dans le dos. Et donc c'est vrai qu'il faut...
Vous y avez trouvé effectivement
donc,
des
ça
choses...
Ça prend tout son sens, en fait.
Bien sûr. Magali Bastos, on fait que commencer cet entretien, vous restez avec nous. Europe 1. Dans un instant, on passe donc à la pratique. Vous qui nous écoutez, vous avez peut-être mal à la nuque, aux épaules, au dos. Eh bien, cette émission va vous passionner, peut-être même vous aider. On va vous détailler un programme, des exercices d'assouplissement qui vont vous permettre d'éviter certaines douleurs. On apprend à détendre nos muscles du stress aujourd'hui dans Sans Rendez-vous. A tout de suite sur Europe 1.
Sans Rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est vous, Magali Bastos. Vous êtes kinésithérapeute et l'auteur du livre « Détendez vos muscles du stress » chez Marabout. Alors Magali, avant de passer aux exercices qu'on peut mettre en place, comme une routine finalement pour se faire du bien au quotidien, vous expliquez dans votre livre que donc pour créer de nouvelles habitudes, le secret finalement, c'est d'y aller progressivement, une seule habitude à la fois. C'est comme ça que vous avez construit votre programme.
C'est ça, je pense que pour que les routines s'installent, il faut effectivement y aller progressivement et ancrer les choses pas à pas pour que les gens puissent insérer ça dans leur quotidien. Donc j'ai voulu un programme vraiment progressif sur 5 semaines. Ça peut paraître long et en même temps, ça permet vraiment aux choses de se mettre en place de manière lente et posée.
Chaque jour, on travaille sur une zone de muscle du stress, justement, dont on a parlé juste avant, c'est ça?
C'est ça. Chaque jour, on essaye d'intégrer de nouveaux exercices sur les muscles du stress. Et en fin de semaine, il y a une posture globale qui reprend un petit peu l'ensemble des muscles avec toujours la respiration et les étirements sur l'ensemble des muscles.
C'est très bien écrit et très bien expliqué dans le livre. Il y a plein de petits dessins. Je vous invite vraiment à regarder parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de comprendre ça à l'oral. Mais Jimmy?
Ces exercices, on les fait où à la maison? Est-ce qu'il faut les faire tous les jours? Et puis plutôt le matin ou le soir? Est-ce qu'il y a un moment de la journée où c'est propice?
Il a besoin d'un guide. Lui, il faut qu'on lui dise c'est quand tu dois faire ça, quand est-ce que tu dois faire ci.
Donc, je comprends. En fait, on a tous besoin d'un guide. Donc, en fait, comme je le dis dans le livre, finalement, on a tous besoin d'un guide. Mais en fait, très souvent, le guide, c'est à soi de le trouver. On peut le faire le matin, le soir, il n'y a pas de règle en fait.
Au réveil, c'est pas mal, non? Comme un réveil musculaire, un peu, ça peut être pas
oui,
mal.
Oui, mais ça peut être très bien pour vous et pas forcément pour Jimmy. L'intérêt, c'est de
le
trouver.
Le matin, c'est la course avec les enfants.
Voilà, c'est pas le moment le plus zen de la journée.
Le réveil en pleurs, le biberon.
Vous ne trouvez pas le moment de faire des exercices pour vous détendre.
Donc c'est pour ça qu'il faut trouver effectivement son moment à soi, s'installer tranquillement, avoir un temps pour soi et chacun peut le trouver.
Vous le faites quand, vous, par exemple?
Moi, plutôt le soir.
Ouais, les enfants sont couchés, on est tranquille, c'est ce moment-là.
Exactement.
Chez soi, il faut trouver donc l'endroit de faire pour faire cette routine dont on va parler. On va rentrer un peu plus dans le détail juste après. Mais on le fait où? Dans sa chambre? Est-ce qu'il faut du matériel en particulier?
Alors en fait, c'est ça. Moi, j'aime bien effectivement avoir un endroit qui est dédié à cette pratique, à ce temps calme rien que pour moi, et avec un petit tapis de sol. Après, le matériel, je propose en fait d'en avoir un petit peu avec les exercices du livre, mais il n'est pas indispensable.
Une petite balle pour se masser, notamment.
Petite balle de tennis, ouais. Petite balle avec picot pour aider un petit peu sur les massages. Mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir un endroit à soi, un tapis de sol, un peu chaleureux, cocooning, qu'on a préparé pour justement être dans un moment où on prend soin de soi.
Cet endroit dans votre salon, il n'y a pas de Lego par terre. Voilà, ce petit carré-là, c'est pour vous.
Exactement. Si Mélanie veut se détendre les trapèzes, comment est-ce qu'elle peut faire avec des exercices au sol simples?
Alors, par exemple, dans le livre, au sol, pour les trapèzes, donc les trapèzes, je rappelle, c'est les muscles au niveau des épaules, et on peut avoir tendance à remonter ses épaules.
C'est là que j'ai mal, c'est vrai, voilà. Souvent.
Donc, on peut avoir tendance à remonter ses épaules quand on est un petit peu stressé et avoir la tête dans les épaules. Donc, allongé au sol, on peut prendre les coudes dans ses mains, être allongé avec les jambes repliées, prendre les coudes dans ses mains, prendre le temps d'inspirer, essouffler, c'est toujours important de le faire sur la respiration. Si on le fait en apnée, il n'y a pas d'intérêt. Et sur l'expiration, à chaque fois, c'est sur le temps expiratoire, on pousse les coudes vers le plafond. Donc là, on va avoir un étirement de la partie arrière du dos de façon symétrique qui va étirer progressivement les trapèzes.
La première semaine de programme, elle se passe de toute façon au sol, tous les jours. Pourquoi on commence au sol? Et puis, dans votre livre, on a l'impression que l'homme se lève petit à petit, puisqu'après, on fait des exercices debout dans la dernière partie. Mais pourquoi on commence au sol, la première semaine?
En fait, on commence au sol parce que ça permet d'enlever un petit peu toutes les informations parasites, de remettre la personne dans une position où elle est dans un confort. Et ça lui permet, en fait, de retrouver des sensations au niveau du corps pour apaiser un petit peu les tensions du quotidien.
Jimmy.
Parfois, des gens stressés vont avoir les mâchoires tendues et vont même avoir ce qu'on appelle un bruxisme, c'est-à-dire que la nuit, ils vont grincer des dents. Comment est-ce qu'on peut faire des exercices simples pour détendre la mâchoire? Est-ce qu'il y a des exercices à faire?
Alors, les plus simples, déjà, c'est tout simplement le massage. On peut spontanément faire des massages, des traits tirés verticaux, des massages circulaires pour soulager ces petits muscles qui sont...
Déjà, en se massant tout seul, comme ça, avoir des résultats, on détend vraiment en malaxant ses joues.
Le fait de masser, ça permet déjà de prendre conscience de la douleur, de la présence d'une tension. Et donc, quand on en prend conscience, on peut agir dessus. Donc, effectivement, le massage, c'est un premier outil. On peut effectivement aussi faire des mouvements d'ouverture.
Moi, j'ai vu que vous proposiez de tirer la langue dans votre livre.
Par exemple, je propose aussi surtout de bâiller. On a tendance à se cacher à chaque fois qu'on bâille ou à retenir un petit peu les bâillements parce que par pudeur ou voilà. Et en fait, moi, je propose au contraire de ne pas hésiter à bâiller,
très fort,
à laisser la mâchoire se détendre à ce moment-là pour soulager ces muscles qui sont les masséters, qui sont très toniques.
Magali Bastos, on va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée, la kinésithérapeute Magali Bastos, avec qui nous apprenons aujourd'hui à détendre nos muscles du stress. Alors Magali, j'ai dit dans votre programme, il se fait normalement en 5 semaines. Ça démarre par une semaine d'exercice au sol, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et puis, petit à petit, les semaines suivantes, la semaine 2, la semaine 3, on va passer en position assise d'abord, et puis se relever complètement, on en parlera juste après. Mais la deuxième semaine, donc, on fait des exercices au sol, mais en appui sur les mains et les genoux. Ça n'a pas l'air très confortable comme ça, comme position a priori, mais comment on fait pour ne pas se faire mal justement?
En fait, effectivement, l'idée, c'est de remettre progressivement de la pesanteur sur le corps et remettre au fur et à mesure la personne dans son environnement qui sera ensuite la position debout. Et en position, en appui sur les mains et sur les genoux, il faut vraiment faire attention à une chose, c'est si des douleurs apparaissent au niveau des genoux. On a des ménisques au niveau du genou qu'il ne faut pas... qu'il faut protéger finalement, et c'est une position qui peut être contraignante. Mais sinon, à part ça, les exercices peuvent être faits sans problème.
Qu'est-ce qu'on fait comme exercice, par exemple, s'étirer le dos dans cette position? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le chat, le dos rond là?
Alors voilà, ouais. Par exemple, je propose à un moment l'exercice qu'on peut appeler l'exercice du chat, où on fait le dos rond, dos creux, toujours en rythme avec la respiration. C'est toujours vraiment le...
Chaque exercice, de toute façon, c'est toujours au centre, hein, la respiration.
Oui, parce que c'est ce qui permet de donner justement cette alternance entre la contraction et le relâchement, que finalement, on finit par perdre, en fait, quand on est stressé. Donc, c'est important de retrouver cette alternance. Et effectivement, l'exercice du chat, c'est dos rond, dos creux. On inspire en creusant et on souffle en arrondissant le dos.
Non, Jimmy, vous ne faites pas ça le matin, effectivement, parce que les enfants, s'ils vous voient à quatre pattes, ils vont vouloir monter sur votre dos et ce ne sera plus du tout détendu. Hein. Allez,
alors, la sexo, c'est après, mais vous parlez d'un point, un massage qu'il faut faire, le point du lâcher prise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Alors, c'est un point qui vient de la médecine orientale. Les Chinois l'utilisent alors eux plutôt avec l'acupuncture ou la digitoponcture avec des massages en fait circulaires. C'est un point qu'ils appellent le point du lâcher prise et qui se situe, c'est le point numéro 4 du méridien du gros intestin.
Ça n'a rien à de sexuel, Jimmy. Vous attendez à un point, un nouveau point, mais c'est pas ça.
C'est ça.
Et donc on le masse comment ce point ?
On le masse en faisant des mouvements circulaires.
C'est au niveau du ventre en fait.
Non, c'est au niveau de la main.
Ah, la main, d'accord, j'avais pas bien compris.
Alors il s'appelle numéro 4 du méridien du gros intestin, mais le méridien du gros intestin n'est pas que au niveau du ventre. Donc on masse ce point-là. Donc il y a un visuel au niveau de
sur le livre. C'est le point là, entre le pouce et l'index, là, c'est ça, dans l'espace
ça.
Ok, oui, d'accord. Mais on le masse et du coup...
on le masse de façon circulaire.
Et c'est censé faire quoi, du coup ?
Relâcher les tensions, permettre de lâcher prise au niveau du corps et aussi du mental.
Attention à ne pas faire si on est enceinte. Vous le signalez dans votre livre, en tout cas. Ouais, faut pas toucher à ce point-là.
Exactement.
Dans la troisième semaine du programme, on passe en position assise, avec d'autres exercices qu'on pourra faire dans cette position. Et vous commencez en expliquant que, justement, bien s'asseoir, ça c'est d'un point de vue général, pas forcément dans le programme, c'est très important. Comment on est sûr d'avoir la bonne position ? Alors, je prends souvent Jimmy en exemple, avec tout ce qu'il ne faut pas faire.
En contre-exemple.
Il est toujours assis sur une fesse, ça c'est pas bon. Hein.
Pas forcément, c'est pas...
Ah.
C'est pas que c'est pas bon,
c'est qu'il faut bouger.
Il faut pas rester tout le temps dans la même position.
Il passe d'une fesse à l'autre, hein, donc ça va.
Il a le droit. Par contre, l'installation de son poste de travail, par exemple pour les gens qui travaillent avec un ordinateur ou au bureau, l'installation du poste de travail, ça c'est important effectivement. Ça paraît évident et peut-être bête à dire, mais il faut avoir l'écran en face de soi. Il y a plein de gens qui travaillent avec l'écran sur le côté, le clavier sur le côté.
Et ça crée des douleurs, en fait.
Ça crée des tensions qui, si elles sont maintenues trop longtemps, peuvent figer et amener des contraintes qui, ensuite, peuvent créer des blocages. Donc, effectivement, c'est important aussi de l'avoir en tête.
Jimmy.
Dans votre livre, vous faites un zoom sur les trapèzes. Souvent, les gens sont contractés au niveau du trapèze. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour le savoir si réellement on a une contracture ? Est-ce qu'il y a un exercice pour nous en rendre compte ?
Pour savoir si on a des contractures, en gros, souvent, c'est la douleur qui nous guide.
En levant les bras, je crois que vous dites, si on n'a pas de problème de trapèze, pour que ce soit harmonieux, si on lève les bras, il y a les épaules qui ne se lèvent pas.
Effectivement, le mouvement harmonieux des épaules, c'est lever le bras, mais l'épaule reste basse jusqu'à un certain point. Il ne faut pas lever les bras en montant les épaules vers les oreilles. Malheureusement, quand il y a trop de tension, on peut avoir tendance à...
Quand il y a trop de muscles, je crois aussi.
C'est ça.
Pas pour moi, ça.
Comment il les détend alors, ces trapèzes, Jimmy ? En position debout, par exemple.
Par exemple, en position debout, il peut positionner la main dans le dos, prendre la main droite avec la main gauche, incliner la tête vers la gauche.
D'accord.
Et puis, sur l'expiration, tracter le bras dans le dos.
Et ça va étirer ce muscle.
Ça va tirer le trapèze. D'accord. Exactement.
Et c'est ça qu'on peut faire le matin comme une routine. Combien de temps ça prend tous les jours, cette routine qu'on va mettre en place, qu'on va suivre dans votre livre ? De toute façon, il faut le lire, le programme, pour vraiment bien le comprendre. Mais on fait ça quoi ? 10 minutes, un quart d'heure au moment qu'on a choisi dans la journée ? Ça dure combien de temps ?
On peut faire effectivement 10 minutes, un quart d'heure. C'est une bonne base déjà. Déjà, quand on met 10 minutes, un quart d'heure en place pour soi, c'est déjà super. Avec de la respiration et des étirements, c'est déjà super. Si on peut en faire plus, c'est encore mieux. Mais 10 minutes, un quart d'heure, c'est déjà très bien.
Merci beaucoup, Magali Bastos, d'être venue sur notre plateau. Nous en dire plus donc sur votre programme. Tout doux pour faire du bien à notre corps. Je rappelle le titre de votre livre, Détendez les muscles du stress chez Marabout. J'ajoute également que vous donnez plein de conseils très pratiques sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook sous le pseudo Madame Kiné. Merci encore.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un point sur une maladie de la grossesse. 40 000 femmes enceintes sont concernées chaque année. Nous allons tout vous dire sur la pré-éclampsie. On en parle juste après. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous 15h, 16h sur Europa. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle d'une maladie de la grossesse. Savez-vous ce qu'est précisément la pré-éclampsie? Comment on la dépiste chez une femme enceinte? Et comment, bien sûr, ça se prend en charge médicalement? Justement, Benjamin Lévesque est parti sur le terrain vous poser toutes ces questions. On écoute son micro-trottoir.
Oula, pré-éclampsie. Aucune idée. C'est un terme que j'ai jamais entendu.
C'est lié à la grossesse, mais quoi exactement, je sais pas. C'est une anomalie, c'est un problème lors de l'accouchement, mais quoi?
Je pense que c'est plutôt les hommes. J'ai envie de dire que c'est un truc qui est lié à, plutôt au sexe. Une rupture du frein qui se passe en cas de relation sexuelle. Ou...
Gérer une pré-éclampsie pour des médecins, c'est justement empêcher le fait que quelqu'un se vide de son sang.
Ça peut être dangereux pour la maman comme pour l'enfant aussi.
Ça me fait penser à clamp. Un clamp, c'est quelque chose qu'on fait pour arrêter la circulation sanguine, par exemple, sur un vaisseau, prévenir une grossesse. Peut-être qu'on clampe une partie de l'utérus, peut-être les trompes de Fallope.
Il faut de toute façon, bien évidemment, prévenir des forces médicales, que ce soit via son médecin traitant, d'appeler le SAMU, de partir aux urgences, pour de toute façon avoir un avis médical.
Je pense que la sage-femme ou l'obstétricien fait une piqûre dans l'utérus.
Alors, il y a de l'idée, il y a quelques bêtises aussi, ça n'a rien à voir avec le frein masculin, ce n'est pas non plus en rapport avec le clamp, Jimmy. La pré-éclampsie, donc c'est une maladie de la grossesse, c'est quoi précisément?
Ah, c'est vraiment une maladie de la grossesse, vous l'avez dit, c'est lié à une anomalie du placenta. Le placenta, c'est ce qui permet les échanges entre la maman et le bébé. Et en fait, vous avez un placenta qui va mal se positionner, c'est une mauvaise implantation. Au premier trimestre, ça ne pose pas beaucoup de problèmes, mais à mesure que le fœtus grossit, eh bien, il faut de plus en plus d'échanges, sauf que les échanges se font moins bien. Et en fait, le placenta va libérer des débris qui vont se retrouver dans la circulation sanguine et qui vont produire des molécules qui vont entraîner chez la maman une augmentation de la pression artérielle,
voilà,
et des échanges qui vont moins bien se faire entre la maman et le bébé, toujours au travers de son placenta. Et ça va avoir des conséquences sur le bébé, mais aussi chez la maman, vous avez un rein qui va marcher un peu moins bien et qui va laisser filtrer des protéines qu'on va retrouver dans les urines, alors que normalement, le rein réabsorbe ces protéines.
D'accord. Est-ce que c'est très fréquent comme complication de la grossesse ou
alors,
pas?
On l'a dit, c'est 40 000 grossesses chaque année. C'est 5% des femmes enceintes.
Quand même. Hein.
Sauf que c'est la deuxième cause de décès maternel en France, après les hémorragies de la délivrance, l'hémorragie qui suit l'accouchement. Et c'est un tiers des naissances des grands prématurés. Donc, finalement, c'est peu de mamans, mais avec des conséquences parfois.
C'est très, très au sérieux. Il y a des facteurs de risque chez la femme qui font, je ne sais pas, quand on a déjà eu, j'en sais rien, une pré-éclampsie, est-ce que sur une deuxième grossesse, par exemple, c'est plus risqué?
Oui, alors déjà, la première grossesse est celle qui est la plus à risque. 70% des pré-éclampsies surviennent après la première grossesse. Et si jamais vous n'en avez pas eu, vous êtes un peu moins à risque, puisqu'ensuite, il y a un phénomène d'adaptation immunologique. Le placenta, il vient du fœtus. Et donc, il y a un peu d'antigène du papa et un peu d'antigène de la maman. Et donc, en fait, quand la première grossesse s'est bien passée, vous êtes moins à risque. En revanche, si vous êtes un peu âgé, plus de 40 ans, ou un peu jeune, moins de 20 ans, si jamais vous êtes en surpoids, hypertendu,
ça,
avec du diabète, il y a des antécédents dans la famille, vous êtes plus à risque. Et aussi, si vous avez un nouveau partenaire, le fait d'être peu exposé aussi au sperme, si vous avez utilisé beaucoup les préservatifs, eh bien en fait, il y a un phénomène de reconnaissance immunologique où l'antigène va être considéré comme un hôte agresseur.
Un
et donc
ennemi,
à ce moment-là,
ouais,
il peut y avoir cette pré-éclampsie. Et puis, il y a des facteurs qu'on ne comprend pas bien encore.
Alors, rapidement, Jimmy, c'est quoi les signes qui doivent donner l'alerte pour une femme qui aurait ça, justement? Et
alors,
surtout, comment elle est prise en charge?
La pré-éclampsie survient à la 20e semaine d'aménorrhée, après la deuxième moitié du deuxième trimestre. Et à ce moment-là, c'est une hypertension artérielle. La
c'est
tension,
ça qui alerte, ouais,
on contrôle tous les mois, va être à plus que 14,9. Et puis, chaque mois, lorsque vous êtes enceinte, on fait des bandelettes urinaires et on va avoir des protéines dans les urines.
L'albumine.
Des protéines, tout simplement, et puis qu'on va doser secondairement, mais aussi, on peut avoir des œdèmes des membres inférieurs, des maux de tête,
des
flous visuels, des douleurs abdominales, bref, n'importe quel symptôme qui doit absolument vous amener à consulter.
Et on sait la prendre en charge?
Oui, alors le seul traitement de la pré-éclampsie, c'est d'accoucher.
Donc en fait,
quand le terme est trop tôt pour éviter un accouchement prématuré avec les conséquences que ça peut avoir, eh bien, on hospitalise la maman, on contrôle la tension et on surveille le bébé, puisqu'il y a un risque de retard de croissance, mais aussi de complications qui peut conduire au décès du bébé. Donc, vous êtes souvent hospitalisé et dans les cas un peu urgents, on a recours à la césarienne, puisque la seule façon de se débarrasser de la maladie, eh bien, c'est de faire sortir le bébé.
Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc. Il sera question de baisse de libido chez certaines femmes en prenant de l'âge. Elle nous dit tout dans quelques minutes. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et elle entre dans ce studio à l'instant. C'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie. Bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui Catherine, on va tenter de répondre à la question de Patrick qui a 73 ans. Je pense que c'est l'auditeur le plus âgé qui nous a écrit sur votre chronique.
Ah,
en tout
enfin
cas.
Enfin, voilà, parce qu'il faudrait arrêter de penser
qu'il y a une sexualité à 70 ans.
Évidemment. Voilà.
Alors je vous lis sa question. Patrick nous demande la chose suivante. J'ai la chance d'avoir encore ma femme que j'aime depuis 45 ans. Waouh. Malheureusement, elle n'éprouve plus de désir sexuel alors que moi si, nous avons quasiment le même âge. Il précise qu'elle a 2 ans de moins que lui. Je n'ai pas envie de la forcer. Quel conseil me donnez-vous? Est-ce que Catherine, donc elle a, il a 73 ans, elle a 71 ans, son épouse. Mm-hmm. Est-ce que c'est classique, je dirais, une femme à 71 ans qui a une baisse de libido ou c'est pas inéluctable? D'ailleurs, il y a des femmes à 70 ans qui ont toujours la même libido, je ne sais pas.
Alors, c'est pas toujours la même parce que de toute façon, la libido, elle évolue tout au long de notre vie. Donc, c'est pas plus à 71 ans que ça n'est déjà le cas à 40 ans, 50 ans, etc. Mais effectivement, ce sont des temps à chaque fois de réadaptation. Il y a eu le temps de la ménopause, il y a donc aussi les détériorations potentielles du corps, de la lubrification, de l'épaisseur donc de la peau et donc du vagin. Donc souvent, ça peut perturber la sexualité.
Des problèmes physiques qui engendrent une baisse de libido, mais parce qu'il y a aussi une gêne à cause de petits symptômes du vieillissement.
Voilà,
finalement,
exactement. Hein, puis il y a aussi faire avec son enveloppe corporelle, son regard sur soi-même, parce que la sexualité invite à une érotisation. Et il faut faire avec une idée de soi et la réalité de soi. Et parfois, évidemment, ça coince un petit peu. Ce qui peut entraîner une libido un peu défaillante. Puis il y a aussi l'idée que l'autre, c'est notre autre du quotidien depuis 45 ans. Mmh. Et peut-être qu'il est devenu notre meilleur ami. Et potentiellement, on oublie de l'érotiser et avoir le sentiment finalement que c'est peut-être un peu anecdotique la sexualité. Mmh. Mais ça n'est pas inéluctable puisque des femmes sont tout à fait dans le désir et ce, jusqu'à leur dernier souffle.
Jimmy.
Mais l'inverse est aussi vrai, parce que souvent on a l'image où on explique que la femme n'aurait plus envie alors que l'homme est vigoureux, toujours éternel. Mais l'inverse c'est vrai aussi, on peut avoir un homme qui n'a plus spécialement envie.
Merci Jimmy, parce que
ras-le-bol...
Si, parce que ras-le-bol d'imaginer que ce sont toujours les femmes qui sont des tristes cires et que les hommes sont toujours effectivement vigoureux. C'est parfois compliqué aussi physiologiquement pour l'homme, mais sans être physiologiquement compliqué, c'est peut-être psychologiquement que ce soit difficile d'investir à nouveau la sexualité. Alors, on doit vérifier pour les hommes comme pour les femmes que ce ne soit pas un signe caché de déprime ou de dépression, bien sûr, parce que dès lors que l'on est déprimé ou dépressif, de
baisse
fait,
de désir,
le désir n'a pas lieu.
Mais le désir de vivre aussi, il a envie,
voilà,
en fait.
C'est le premier qui est mis en silence, aux oubliettes. Mais ceci étant, on peut être très joyeux et avoir plein d'autres choses et être plus encombré sur le sujet de la sexualité et que cela pose question du coup pour les femmes. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans un couple, dès lors qu'il y en a un qui est en difficulté officielle de désir, eh bien l'autre se pense très désirant et dit « mais je ne comprends pas, mais tu n'as pas désir, mais comment ça se fait, etc. » Parce que d'une certaine manière, toute la protection que représente l'autre dans son non-désir offre toute la latitude pour imaginer qu'on est soi-même plein de désir. Mais les choses sont un peu plus complexes que ça.
Alors qu'est-ce qu'on peut conseiller à Patrick, donc, qui a 73 ans, je le répète. Il dit qu'il ne veut pas la forcer, c'est bien heureux évidemment, mais il doit lui en parler. Enfin, est-ce que c'est... Il a encore toujours temps de parler de ces problèmes-là. Je veux dire, même à 73 ans, il faut qu'il aborde la question avec elle, si ça le gêne à lui évidemment.
Bien sûr. Alors je pense que sans en parler, c'est une bonne chose. Et puis surtout parler
puis
de...
45 ans, ils se connaissent bien, ils doivent pouvoir aborder les choses.
Oui, mais vous savez, les pudeurs, et surtout sur ces sujets, parce que ça voudrait dire tout d'un coup, pourquoi, alors qu'on n'en a pas parlé avant, on en parlerait maintenant.
Ah,
vous voyez,
oui.
C'est assez compliqué de sortir de nos mécanismes même d'échange. Ceci étant, je crois que pouvoir s'en parler, c'est aussi permettre l'échange un peu autrement. C'est-à-dire, peut-être que ce n'est pas la sexualité comme on l'a eu faite qui t'intéresse ou dont tu as envie. Peut-être qu'il faut t'aborder autrement ou tu aurais envie d'être abordé autrement. Une femme de même âge me disait « Moi, j'aimerais quelqu'un qui prenne son temps. Parce que maintenant, j'ai besoin qu'on prenne son temps parce que je sens que ça mettra plus de temps ou pour que ma lubrification vienne ou pour que mon excitation vienne. Et il faut que l'homme et le partenaire, qui plus est quand on a 45 ans de vie commune, soient attentifs à ces possibilités de changement de rythme. »
Jimmy, une dernière petite question.
Est-ce que les aphrodisiaques sont efficaces ou est-ce que ce même titre que l'homéopathie, c'est efficace comme un placebo et par exemple le gingembre, bah, ça ne sert pas à grand-chose?
Alors, évidemment, il faudrait sans doute manger des brouettes entières de gingembre pour que ça puisse avoir un effet. Encore que, bien sûr, la médecine chinoise dira que le gingembre, c'est quelque chose qui déclenche ou enclenche le yang, ce que je n'y connais absolument pas, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que évidemment que dès lors que vous mettez une crème en vous disant que vous vous faites du bien, dès lors que vous prenez quelque chose qui est un peu poivré, un peu pimenté et peut-être avec une idée un peu sulfureuse, eh bien de fait vous vous programmez et à ce titre je trouve que tout a sa place, y compris des choses qui n'auront pas l'effet d'une drogue. Et c'est heureux parce que sinon, s'il suffisait de prendre une drogue pour que la sexualité soit au bon rendez-vous, eh bien on consommerait des choses qu'il ne faudrait pas faire du tout et on se ferait beaucoup de mal et on ne serait plus aux commandes de sa sexualité.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain dans son rendez-vous, nous parlerons des tiques. Attention, c'est la période pour ces petites bébêtes. On en parle demain. Tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe est sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Restez avec nous aujourd'hui pour bien commencer la semaine. Camille Chamou, comédienne et humoriste truculente, sera avec nous cet après-midi. Elle incarne une mère dépassée dans un excellent film. Une mère dépassée, c'est vraiment un rôle de composition pour vous, j'imagine, Mélanie. Vous
m'avez l'air d'être quelqu'un qui
gère.
Peu, ouais.
Non, vous m'avez l'air de très bien gérer, non ?
Parfaitement, parfaitement.
C'est ça, on va dire ça.
Ça me parle beaucoup, en tout cas, ce thème. Je serai là, évidemment, comme tous les jours. Et puis, il y a un père dépassé, Jimmy aussi restera avec moi. Donc, on va vous écouter, vous aussi, surtout. C'est ça. Restez sur Europe 1.